Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue au Centre Pompidou à la Cinémathèque du documentaire à la BPI pour cette rencontre avec Bill et Turner Ross. Une rencontre animée par Jordan Minzer, journaliste, auteur, un American in Paris, comme on dit, qui écrit aussi pour les magazines français et les journaux français, et qui a aussi publié un livre d'entretien avec James Gray. Il est aussi producteur, donc on a quand même peut-être le meilleur aujourd'hui qui pourrait s'entretenir avec les frères Ross. Voilà, Jordan, c'est à vous.
Merci, thank you. It's good Harry mentioned American in Paris because I've been living here for 20 years, but I also still have kind of a foot in the American indie film world in the US, and I had heard about you guys for quite some time, but I had not really had the chance to see your work until this retrospective and preparing for this. And what struck me right away were the influences that I kind of felt I saw in your work was not something that I typically saw coming out of the US from young filmmakers. For me, there were two influences, and I want you guys to talk about that a little. One was American cinema from the 1970s, where I really felt in your works, and we're going to talk about fiction and nonfiction and all that, but I felt, you know, a kind of spirit of indie filmmaking from the 70s, whether Cassavetes, Robert Altman, even if Altman's not independent, but, you know, had a very particular way of making films. So that's one thing I noticed. The other thing was also the documentary or the nonfiction films I felt you guys were kind of inspired by were not also a lot of films that I saw, you know, younger filmmakers today looking back to. For instance, when I saw Bloody Nose, Empty Pockets, it made me right away think of On the Bowery, which is a fantastic nonfiction type film from the 1950s. But also, of course, Les Blank and the work of Les Blank, which is, you know, Harry has paired you with for this retrospective. So I guess my first question would be, you know, growing up in Ohio like you did, how did you discover all these inspirations that we see in your work here right now? Translation.
Donc Jordan disait que effectivement il vit, même si l'Américain il vit à Paris depuis une vingtaine d'années, mais il a toujours un pied dans la scène du cinéma américain indépendant. Et il avait beaucoup entendu parler des films des frères Ross sans avoir eu l'occasion de les voir jusqu'à cette rétrospective, donc pour préparer cette conversation. Et il y avait deux influences assez distinctes qui m'ont frappé dans votre œuvre. C'est assez atypique d'ailleurs de la part de jeunes réalisateurs. D'une part, on a une influence assez manifeste du cinéma indépendant des années 70 américain, et notamment l'exploration de la frontière entre la fiction et le documentaire. On pense dans l'esprit aux films de John Cassavetes, aux films de Robert Altman, quoique Altman n'est pas si indépendant que ça, mais voilà, ça c'est un aspect qui est très prégnant dans votre œuvre. Et de l'autre côté, des films documentaires, notamment dans votre film Bloody Nose, Empty Pockets, on voit vraiment l'influence d'un film qui s'appelle On the Bowery, qui est un documentaire des années 50. Et on voit aussi l'influence de figures comme Les Blank. Et d'ailleurs, Harry a décidé de vous associer dans cette rétrospective. Donc voilà, comment est-ce que vous, qui venez d'Ohio, avez fait la découverte de ce genre de cinéma?
Also, Agnès Varda, Claire Denis, Jim Jarmusch, you know, just like...
But we didn't come to that until... Well, I guess Jarmusch we did. Turner worked at a video store when we were teenagers, and
the throwaway bin had a copy of Dead Man in it, and that was
The throwaway bin was like where all the international cinema and like art house stuff was. So we would we were talking about this the other night. It just because we grew up in a small town and because we hoped that there was a bigger world out there, I think we were drawn to those movies, like, you know, like I think we saw Fellini around that time in the, you know, in the dollar bin, and it was yeah, it just really opened up the world for us, because, you know, we weren't traveling a ton or anything like that.
But so much of that comes later as we actually get invested in the craft of it and explore out of a hunger for, you know, people who were making that kind of work that we weren't introduced to. Mm. So it wasn't inherent, you know, we had to find it along the way.
Oui, alors c'est vrai que parmi les influences, je peux aussi citer le cinéma d'Agnès Varda, de Claire Denis, de Jim Jarmusch. Il se trouve qu'en fait, Turner travaillait dans un magasin de location de cassettes et il y avait un bac de titres qui était soldé. Et c'est comme ça qu'on a découvert Dead Man au milieu de plein d'autres titres d'art et d'essai. Et on vient d'une petite ville, donc pour nous, ce genre de cinéma, ça a vraiment nourri notre désir d'explorer le monde. On voyageait très peu à l'époque et on a découvert notamment à cette occasion les films de Fellini, et ça a vraiment nourri une sorte de soif d'un cinéma un peu différent. Et aussi, à force de faire nous-mêmes des films, on a commencé à nourrir aussi notre appétit pour la cinéphilie.
After high school, you guys both went to the Savannah College of Art and Design. And when you graduated, you did something that a lot of young Americans who want to make movies do, which is that you went to Los Angeles. And that's a tradition that's been around for hundreds, you know, 100 years, where you go to Hollywood and you try to make in Hollywood. And then at some point you left. So I'd like to hear that kind of story of what your experience was like going into the film industry in LA, and then what kind of drove you out of it to seek another way of making films.
I think the same.
You made the same mistake.
Oh, sorry, yeah.
Donc, en fait, après le lycée, vous êtes parti donc à l'université d'art et de design de Savannah en Géorgie. Et après le diplôme, vous êtes tous les deux partis à Los Angeles, comme une grande tradition des apprentis réalisateurs qui déménagent à Hollywood depuis une centaine d'années. Et en fait, vous avez quitté Hollywood, justement, donc on voulait un petit peu savoir quelle était votre histoire par rapport à l'industrie, quelle expérience vous avez pu avoir et pour quelles raisons aussi vous en êtes sorti.
I think what drew us into film is also what drew us out of the film industry. You know, we made movies naively as little kids with camcorders at home and discovered film through a video store in a small town and explored it further by our own interests. And then, yeah, I went to school as a painter and Bill came and joined the film program, and that opened up a whole new avenue. All of a sudden there were different ways to create that we hadn't been introduced to. And that's when we find these references that you're talking about, people who are making, you know, hand-hewn, kinetic human films, telling stories in a different way. And then that led us into careers in the movies. But then when we got out there, of course, that's not what that, you know, the Hollywood industrial complex mirrors. And we realized, you know, well, of course, it was great to be, you know, young, living in that world and making good money and having the potential to, you know, move up in that. Move up to what was kind of our question, because really we wanted to, you know, we wanted to make things, and we were spending a lot of our youth and energy, you know, making other people's dreams a reality.
But it was very, yeah, it was very. We didn't know anybody like in LA. And so I like, remember, like, as school was getting toward a close, Turner, you know, came into my room and was like, well, I guess we got to go to New York or LA. Which one do you want to go to? And we just picked LA. And when we started out there, you know, we were working going to like temp agencies and stuff, trying to get jobs. But eventually, we got an editing gig and an art department gig and did that for a few years. And then, we were like, our intention was to make our own stuff. And so we signed a contract on a napkin. It was a contract in between the two of us, and that we would at least make one film together, or a feature length film. And if it didn't work out, we would, you know, we could go back to the jobs that we had.
Alors oui, effectivement, c'est vrai que on est allé à Los Angeles parce qu'on aimait le cinéma, et on en est aussi parti pour la même raison. C'est vrai qu'on vient d'une fabrication assez amatrice du cinéma, avec des films qu'on faisait quand on était enfant en caméscope, les magasins de location aussi de VHS. Et donc moi, j'étais dans le département de peinture à l'université. Bill, lui, a étudié le cinéma. Et c'est vraiment à l'université qu'on a découvert comme ça des nouveaux horizons. et toutes les références dont vous parliez. Voilà. Et après l'université, on s'est un peu posé la question de ce qu'on allait faire, quelle allait pouvoir être notre expérience dans l'industrie. Et c'est vrai qu'à Hollywood, on a pu voilà, beaucoup travailler, gagner de l'argent, commencer à construire une carrière, mais qui progressait vers quoi ? On se demandait un petit peu quelle était la finalité de tout ça. Et au lieu de faire nos films, on était en train d'œuvrer à exécuter les rêves des autres, en fait. Et donc, en fait, Bill a vraiment... ensuite, ça, c'est Turner qui dit que... Donc, Bill s'est aperçu qu'on connaissait personne, mine de rien, à Hollywood. Et donc, après l'école, Turner a dit, voilà, on a deux options après l'université. Soit on déménage à New York, soit on déménage à Los Angeles. Et on a choisi Los Angeles un petit peu comme ça. On a postulé à pas mal d'agences d'intérim. Et on a trouvé comme ça des emplois dans le montage, dans le département des décors. On a travaillé quelques années de cette manière-là. Et en fait, on a toujours eu l'intention de faire nos propres films. Et donc, je me souviens d'un pacte qu'on a signé... ensemble sur un coin de serviette. On s'est dit que voilà, il fallait au moins qu'on fasse un long métrage ensemble. Et si ça marchait pas, eh ben au pire, on revenait à nos petits jobs qu'on avait à l'époque.
So this first feature that you agreed on the napkin to make together, I mean, at least your first feature that came out eventually was 45365. Was that the film that you also had agreed to make, or did so I'm curious, because we're gonna see a clip in a second from the film, but what drove you to say, okay, our first film, we're gonna go back to where we grew up and, you know, document that world? What inspired you to do that?
On se demandait donc si ce premier long métrage dont vous parliez à l'époque du pacte sur la serviette, c'était 45365, un film dont on va voir un extrait, qui est un film pour lequel vous êtes retourné en fait dans votre région natale. Pourquoi cette décision d'avoir commencé avec ce film?
It didn't start out as an idea to document. We had been writing back and forth since we were teenagers, short stories and, you know, the poetry of youth and, you know, keeping an archive of the experiences that we knew that up to that point were young people's experiences. And when we looked at them and sort of looked at the content that we had created up into our mid-20s as a source of inspiration, it was very interesting to us, but it was very nostalgic, very backwards-looking, and very... to rearticulate that would be to fictionalize that. And we thought it would be far more interesting to engage with people going through those experiences, because what we gleaned from the writings and the art that we'd made up to that point is what it was about was being present in an emotion, in a transitional space, a state of being, a place, a personal thing. To rearticulate that seemed dead. To go searching for that and try to find it seemed very much alive as an experiment. And that was sort of our starting point.
Alors, oui, je pense pas que le projet ait commencé si clairement, mais c'est vrai qu'on a toujours écrit beaucoup à l'adolescence, des nouvelles, des poèmes, un petit peu comme si on avait une volonté d'archiver nos propres expériences de jeunesse. Et assez rapidement, quand on a commencé à développer des projets de films, on est revenu à ce matériau qui était vraiment empreint d'une certaine nostalgie. Et on s'est dit que si on essayait d'articuler ça sous forme de film, c'était un regard qui était trop tourné vers le passé, en fait. Et c'était une fiction qui aurait peut-être été un petit peu trop compassée. Donc on s'est dit que la meilleure manière de revenir à ces émotions-là, c'était d'interagir avec des gens qui sont en train de vivre ces mêmes expériences dont on parle, mais qui sont en train de les vivre au présent. Et donc, on a voulu faire un film qui parle justement de ce que c'est que d'être dans le moment présent, d'être vraiment en lien avec nos émotions, avec un certain état d'existence, vraiment de raconter des histoires personnelles plutôt que d'essayer d'articuler ça dans une fiction qui aurait été un petit peu trop fabriquée.
So let's... On va regarder un petit extrait. We're going to see a little clip from 45365 from 2009, their first feature. Merci. So I chose this particular part of the film because I think it shows many different things you guys are trying to do in this first movie. One thing I want to talk about is the editing and this kind of montage, this use of editing, which is not necessarily just factual and we're just going to tell you event after event, but also a kind of poetic editing where you're looking for images and moments of beauty in the real world. And, you know, we see that at the beginning of the scene with the concert and the lights on the kids' faces. But also there's the use of music. There's the use of the DJ, the radio DJ, which reminded me of something like Do the Right Thing, where, you know, the DJ is kind of narrating and is kind of constantly present. So there are all these kind of elements of fiction that I find are creeping into this movie, which, as far as I know, is still ostensibly a documentary. So I wanted to just hear how you kind of found this style, I guess, and this way of making films in your first film.
Alors j'ai choisi cet extrait en fait parce que il y a beaucoup d'aspects qui sont représentés dans ces quelques minutes, notamment le travail sur le montage en fait. C'est un style qui n'est pas du tout factuel, on n'est pas en train d'enchaîner des événements, mais au contraire c'est un montage qui est très poétique et qui essaye de montrer des moments de beauté qui sont captés comme ça dans le réel. Il y a notamment ce moment au début avec le concert et la lumière qui se reflète sur les visages. Le travail aussi sur la musique avec la présence de cet animateur radio qui évoque un petit peu la figure d'un narrateur comme on peut en voir dans Do the Right Thing. Donc il y a des éléments de fiction ici et là dans quelque chose qui est quand même un documentaire. Comment est-ce que vous avez trouvé ce style-là justement dans ce premier film?
So I think the majority of the influences were fiction, I think. But it being our first film, we knew the emotion that we were after. We knew just the feeling that we were trying to capture, but not. It took 6 months, and I had been cutting, and it was just bad. It was not worth sharing to, you know, even a close friend. And so we had this cut, and that I was very unhappy with, But I also had this other timeline where it was just stuff I loved, but I didn't know what to do with. And it was just shot after shot, you know, end to end. And so, and this is back in the day, so it was a DVD, and I sent a DVD to Turner and it just said stuff I like or something like that. And so I was just like, just watch this and don't think about the movie. And I think he just called and he was like, I think that's the movie, you know. It's the shots that you have a response to. It's the moments that you're drawn to, and maybe you can't define that, but it's finding the evocative moments that we had captured.
En fait, c'est vrai que la majorité des influences qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était des films de fiction, en fait. Et pour ce premier long métrage, on était vraiment à la recherche de certaines émotions ou de certaines sensations qu'on essayait de filmer. Et on a eu tout un processus qui a duré à peu près 6 mois. On a fait comme ça un premier montage, mais qui était assez mauvais, qui était même pas montrable à nos meilleurs amis. C'était une première version qu'on aimait pas beaucoup. Mais on avait quand même un deuxième montage qui était simplement tous les moments qu'on avait adorés. Qu'on avait mis comme ça un petit peu bout à bout, vraiment une série de plans. Et à l'époque, donc je me souviens que j'ai donné un DVD à Turner, que j'avais appelé quelque chose comme Les choses que j'aime, voilà, qui n'était pas vraiment un film. Je lui ai dit, voilà, ne pense pas au film qu'on a monté, mais regarde quand même ça. Et il a dit, mais en fait, c'est ça notre film, parce que c'était ces plans-là avec lesquels on avait la plus forte réaction émotionnelle, ou en tout cas, il y avait une force d'évocation dans ces images qu'on ne trouvait pas dans l'autre film.
So, from what I'm getting here, so Bill, you're editing the films, and Turner, I believe you're shooting the films, or you're one possibly, or you both shoot. And I want to hear a little bit about your process, because in terms of the shooting side, what I found also in this first film and then the rest of your films is there's a lot of camera work that also feels fictional in a way. We see in the scene of the pre-marriage scene where there's this kind of slow zoom out of the mirror, and you know, these are shots you compose in a fictional film, and all your your films, again, we're not going to use the word documentary necessarily, are filled with those moments. So do you, I don't know if you both operate the camera or how, I'd like to know a little how that works.
Si je comprends bien, en fait, Bill, vous êtes en charge du montage. Et Turner, vous êtes plutôt derrière la caméra. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre collaboration? Parce que le travail, notamment à l'image, évoque beaucoup plus les films de fiction. Il y a notamment, là, on a vu un zoom très travaillé sur un miroir. Cette composition-là, c'est des choses qu'on trouve plus souvent dans des films de fiction. Alors, on ne va pas parler de documentaire, nécessairement, pour parler de votre film. Mais est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la façon dont vous répartissez le travail?
It's evolved over time. When we first got started, I had been working in studio films, but in art departments. So I learned a lot there, because you're working with all of the heads of all the departments and learning how to manifest a film, which is invaluable information. And I had, you know, had trained as a painter and you know, a sense of framing and what those images mean. But Bill had to teach me how to use a camera when we first got started, and then I strapped it on the back of my motorcycle and went back to Ohio and started shooting stuff, you know? So the original stuff is kind of crude, but that was also beautiful, you know? I think when we both look back at this, the best things that happened because we were naive to these things. You know, I was watching films to learn how film framing worked, and so it very much resembles what our references were. Bill was very technically savvy, but had also been trained in narrativized storytelling. So we had a lot to learn, and we did it together. You know, I think on most of the films, it's primarily equal in terms of the shooting. Sometimes we're in separate places, sometimes we're in the same place. When we first started out, I did the front end of the film and Bill did the back end, you know, the pre-production, and then we were there on site, and then the back end Bill was editing, and even that over the years has changed to where I feel like there's much more of an equality throughout, which is so much more satisfying now. But, you know, it's a language we've had to create together, and one we've had to you know, both learn to get closer to each other.
Je pense que ça a beaucoup évolué depuis nos débuts. C'est vrai qu'avant de commencer à réaliser des films, je travaillais dans le département des décors sur des films de studio. J'interagissais avec différents chefs de poste. Et c'était vraiment une très grande leçon sur la façon dont naît un film. Et puis j'avais fait des études de peinture, donc j'avais un certain sens de la composition. Et c'est vraiment Bill qui m'a appris à faire fonctionner une caméra. Et je me souviens avoir attrapé une caméra et être parti en moto comme ça vers l'Ohio. Donc au début, je faisais vraiment des images qui étaient très brutes. Mais il y avait une certaine beauté dans la naïveté qui émanait de ces images. Et en fait, j'ai regardé de plus en plus de films pour essayer de comprendre le travail sur la composition. Donc je pense qu'au début, mes images étaient très proches de mes références. Et Bill, quant à lui, il a vraiment une expertise technique beaucoup plus développée. Mais ce qui l'a intéressé assez vite, c'était d'expérimenter sur la narration cinématographique. Donc on a vraiment beaucoup appris ensemble. On s'est réparti les tâches à peu près à 50-50. Au début, c'était plutôt moi qui étais chargé de faire tout la pré-production du film, là où Bill s'occupait plutôt de l'après, le montage. Et puis ça a beaucoup évolué en fait, au fil du temps. Et je trouve que maintenant, on a une collaboration qui est très satisfaisante.
So, when you decided to leave Hollywood, you went to, I don't know if you stopped through Ohio first, but you eventually settled in New Orleans, where I believe you still live, at least according to the film from the other night. And I found that it's very interesting that in the U.S. now, what you guys said before, you know, it's L.A. or New York. You have to, that's where you go to make movies. I feel like that has kind of changed over the past decades, possibly, and that there are new centers opening up around the U.S., you know, Detroit, Baltimore, Philly, you know, all these kind of, and then, of course, New Orleans, where there's, and Austin, which has been around for a little longer, a lot of other filmmakers also coming out to New Orleans and making films there, and there's kind of a community there. But I'm curious how you wound up there, what attracted you to that city, and why you thought that would be the place you wanted to settle as young directors.
C'est vrai qu'après être partie d'Hollywood, vous avez peut-être fait un passage rapide par l'Ohio, mais vous êtes assez rapidement tourné vers la Nouvelle-Orléans. Et vous évoquiez le fait que en sortant de l'université, c'était soit Los Angeles, soit New York qui étaient un petit peu les pôles attractifs du cinéma à l'époque, ce qui a beaucoup changé en fait ces 10 dernières années. C'est-à-dire que maintenant, on a des nouvelles villes dans lesquelles il y a une très forte génération de réalisateurs, que ce soit Détroit, Baltimore, Philadelphie, même Austin, qui a cette réputation depuis un certain temps. Et pour vous, ça a été la Nouvelle-Orléans. Il y a d'autres réalisateurs aussi qui sont basés là-bas. Qu'est-ce qui vous a conduit là-bas ? Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette communauté-là de réalisateurs?
Initially, out of necessity, our family had a footprint there, so that, in so much as I could work local. So, my first film jobs were in New Orleans before we moved out to LA. And then, you know, for the same reasons, it was something that really stuck in our imaginations, was familiar, was the base of a lot of inspiration, which led to the second film. And then really just became the backdrop of our ethos, life first. That city's a much better place to live in, you know, with good people and a culture and way of life that that speaks to things that we love and appreciate. And we just didn't need to be in those spaces anymore. Most of our work doesn't occur in New Orleans, although the industry does fluctuate. It thrives down there. So we can be adjacent to it and work within it when we want, and there are other, you know, really interesting artists living there, but you know, we're not there for the industry. We're there because it's a great place in the world.
Alors, à la base, en fait, la Nouvelle-Orléans, c'est parce qu'on a de la famille là-bas, et même avant d'aller travailler à Los Angeles, j'ai fait mes premiers tournages là-bas, et je pense que on avait un souvenir très fort de la Nouvelle-Orléans qui transparaît beaucoup dans les choses qu'on a pu écrire à une certaine époque. Ça a été une très forte inspiration qui a conduit notamment à notre deuxième film. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est à la Nouvelle-Orléans, c'est en grande partie en raison de notre éthique de vie, notre conduite, en fait, c'est-à-dire la vie avant tout le reste. Et quel meilleur endroit que la Nouvelle-Orléans pour vivre, en fait. Alors, on n'a plus besoin aujourd'hui d'être forcément à la Nouvelle-Orléans, notamment parce que les films qu'on fait ne sont pas tous situés là-bas. Mais il y a un vivier qui est très, très riche. Dans cette ville-là. Et en fait, si on est resté, c'est pas tellement pour l'industrie du cinéma, mais c'est vraiment pour la qualité de vie.
Yeah, and that's true. I forgot to mention that Louisiana has a big kind of local film industry. There's a lot of Hollywood shows that come down there. There's a good tax credit. And so you have, you know, tons of movies that aren't even set in Louisiana, but that are shot there for financial reasons and otherwise. So when you mentioned your second film, that's I always have trouble pronouncing
Chapatoulas.
Chapatoulas, thank you.
The French in New Orleans is always a little bit skewed. So.
Chapatoulas, which we don't have a clip of, but I wanted you just to briefly describe this film or this experience of making this film, because what's striking about it, and I recommend everybody check it out if they can see it here or see it on DVD or on streaming. It's, you know, I thought I was walking into a documentary when I was going to watch the film, and I said, wait a minute, like, there's no way they shot this all in one night. And so, you know, and the story briefly is, you know, three kids from outside the center of New Orleans are growing up kind of in what we would call the banlieue in Paris, and they decide to go to New Orleans for the night, and they get stuck there because their ferry has left. They miss the ferry back, and so they kind of discovering their city, their own city, for the first time, and it's extremely moving because you realize they live there, but they're kind of outside of it at the same time. And so, but I'd like to hear a little about how you made this film, which again comes across somewhat like a documentary, but I guess is not.
Oui, alors c'est vrai que pour revenir sur la Louisiane, comme il y a beaucoup de crédits d'impôt notamment qui sont offerts aux réalisateurs, il y a énormément de séries et de films qui y sont tournés, même si l'intrigue ne s'y situe pas. Et donc ça nous amène à votre deuxième long métrage, donc Chapatoulas, dont on ne va pas voir d'extrait, mais qui est un film vraiment très fort que je vous conseille de voir, que ce soit ici ou éventuellement en streaming ou en DVD. Et au départ, on pense voir un documentaire, mais en fait, on se dit c'est impossible que ce soit tourné en une seule nuit. Donc, pour résumer l'histoire, c'est trois gamins de ce qu'on pourrait appeler la banlieue de la Nouvelle-Orléans qui vont passer la nuit dans la ville et qui en fait se retrouve coincé parce qu'il rate le dernier ferry. Et il découvre un petit peu pour la première fois ce que c'est que d'être dans la Nouvelle-Orléans. Il y a quelque chose de très émouvant dans leur regard sur la ville. Et donc la question, c'était de savoir comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce film aussi.
Yeah, after our first film, came out, and to our surprise, it did very well, and that was very scary. People were paying attention to us, and we were like, "What do we do now? We should just."
We hadn't thought that far ahead.
Yeah, yeah. Thought that far ahead, and so we were like, "Let's make another movie." So, I had a dream one night, and it was about. It's a similar story, but it was kids in like Los Angeles, like running around at night. And anyway, I woke up in the middle of the night and I wrote it all down, and it's like a page. And I sent it to Turner. I said, "This, you know, we should try this." I don't know if the thought was to do it in New Orleans immediately, but
it sounded a lot like us as kids in New Orleans.
Yeah,
which then became an extrapolation of that origin idea, which is, well, that can be the inspiration that colors everything, but we need to go find the real thing. And so it is a fictional armature, but it's composed of, you know, real lived experiences and real lived places. And it is a, you know, a consolidation of 9 months of shooting into a single night. So we were up all night for 9 months, but
why don't we stop there?
We'll stop there, okay. Yeah.
And we can continue here.
Alors c'est vrai qu'après la sortie de notre premier film, ça a été une grande surprise pour nous parce que le film a eu un très bon accueil et les gens commençaient à savoir qu'on existait et on n'avait rien prévu. Donc on s'est dit tout de suite, il faut faire un deuxième long métrage. Et j'ai eu un rêve une nuit de gamin qui court la nuit à Los Angeles et j'ai tout écrit sur une page que j'ai envoyée à Turner. Et je ne pense pas qu'à l'époque, ça se passait à la Nouvelle-Orléans, mais je pense que c'était un petit peu, au fur et à mesure de la construction du film, c'était un petit peu comme si on se projetait, nous, enfants, à la Nouvelle-Orléans la nuit. Donc on a extrapolé un petit peu tout ça. Et en fait, même si l'inspiration, c'est effectivement cette idée de départ, il a fallu qu'on trouve des vraies personnes pour les filmer. Donc il y a effectivement une structure qui est fictive, mais par contre tout ce qui est dans le film s'inspire vraiment du vécu des gens qu'on filme, et on a tout ramassé sur une nuit dans le film, mais en réalité on a tourné pendant 9 mois, donc on a vécu pendant tout ce temps-là une vie nocturne.
So, no, keep going. Okay.
You're doing a great job, man. Thank you very much.
We never think about the films as documentaries. It's just a way of going about it. People only get upset when it's like they get programmed as, you know, in a certain way. But so, yeah, we never thought of this one as a documentary either. It was, again, collecting images and that would, you know, hopefully convey a sort of this feeling that we had about the place. But, for, I think, 7 months, we looked for kids to hopefully see the city through. And around the 7 month mark, after like staying up all night and filming everything else, we hadn't found anybody that really worked. And we, there was like one really bad week where we were like, well, we made one movie.
We just thought we were gonna have to make a different movie.
And there was talk of like, we had a good run.
There's always
maybe
a talk
we'll
of
quit.
Abandoning ship, yeah. Still talk, but they literally walked there. That's them there on the levee on the other side of the river. They literally walked into our lives like that, and the three of them and their dog, and we went and talked to them and told them what we were up to, and then we went and met their families and hung out for a while, and then they became the face of the film.
Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé le film comme un documentaire. Parfois, les gens sont un peu contrariés quand on passe le film quelque part avec une étiquette documentaire, etc. Mais je pense que c'est surtout un film dans lequel on a essayé de récolter des images. On part vraiment de la sensation qu'on a pu avoir d'un lieu, d'un endroit. Et pendant 7 mois, on a quand même chercher des adolescents dont on pouvait suivre un petit peu le regard sur le monde et sur la ville. Et on n'a trouvé personne. Et on a vraiment passé une semaine atroce à se demander si voilà, on avait fait le premier long métrage, peut-être que c'était temps d'abandonner le projet, voire de retourner à nos anciens boulots. Et puis, en fait, il s'est passé un petit peu ce que vous voyez là sur l'écran, c'est-à-dire qu'on les a trouvés tous les trois sur ce ponton. Ils sont entrés dans nos vies comme ça, ils étaient avec un chien. Et on a passé beaucoup de temps avec leur famille à apprendre à les connaître et on s'est décidé de faire le film avec eux.
So I feel like that's a perfect example of how you guys work, is where you kind of set up a situation where something can happen, you know, something cinematic, something beautiful, something maybe bad as well, because it's just to introduce the next clip, which is from your third film, Western, and where again it seems like you're in a certain place and things are happening, and you're documenting that, but also creating a kind of fiction out of that as well. So I'll let you translate, and then we'll show the deuxième extrait, s'il vous plaît.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un exemple très parlant de votre travail, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous créez un contexte dans lequel vous allez faire advenir le cinéma, et ça va être assez visible, notamment dans l'extrait qu'on va voir, qui est un extrait de Western, donc qui est votre troisième film, où comme ça, on a l'impression que vous trouvez un endroit et que vous enregistrez un petit peu ce qui s'y passe, quitte à avoir quelques éléments fictifs qui sont intégrés dans le film.
Donc, merci. So, yeah, what I found really, I'll just explain the story of the film very briefly. What you see on screen, the film is set in on a border town between, just on the border between Texas and Mexico, and it's where there's cattle trade happening, and everything at the beginning seems to be going quite well, and then as the film progresses, the drug cartels are coming in and they're killing people, and it destroys the cattle trade in this kind of rather positive cross-border situation that the film starts with. For me, these are elements of fiction and of a Western. I think you chose the title Western not by chance, that there's a lot of Western set in border towns. It's kind of a classic trope of Hollywood cinema, and yet what we're seeing is real. So I want to know how that came about, how you wound up in documenting this place and creating this story, that's also a real story out of it.
Alors, donc quelques mots sur le film et ce qu'il raconte. Donc ça se passe dans une ville à la frontière entre le Texas et le Mexique. Il y a beaucoup de ventes de bétail, en fait. Et au début, tout a l'air de très bien se passer. Et puis, à un certain moment, des cartels arrivent. Il y a une vague de meurtres qui s'ensuit et qui détruit un petit peu ce qu'il pouvait y avoir de positif, justement, dans cet échange marchand autour du bétail. Et le titre, d'ailleurs, n'est pas choisi au hasard. Western, c'est-à-dire qu'on est face à une situation assez archétypale de ville à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc vous construisez ce film à partir d'une certaine réalité, mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici et comment vous avez construit le film?
You bridged into that by talking about us creating scenarios within which people can have experiences, genuine experiences, you know, and the framing is ours, the experience is theirs. But that also goes both ways. And in this instance in particular, that container was informing us, and we were learning. You know, we were approaching that from the perspective of Americans raised on Western films, black hat, white hat, one side of the line, the other side of the line. And also, in that region along that border, there was, it was a major season of cartel violence and unrest, and it was being portrayed in the media in a very specific way, as well as the building of the border wall. And we felt that very likely there was more to that story than what we were receiving from the news. So, you know, we went down to that space with preconceived notions that we wished to be rid of. And what we encountered was, you know, something very different. It was across cultural pollination for generations, not one side of the line or the other, but that's what it was turning into because of politics and violence.
Oui, alors c'est vrai que en général, quand on commence à penser à nos scénarios, on se dit que nous, on va créer un cadre. Ça, c'est notre partie du travail. Et ensuite, le public va remplir ce cadre avec leurs propres émotions. Et ici, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est le cadre qui est venu vers nous. Nous, on est des Américains qui avons grandi en regardant des westerns, en fait, avec un sens très déterminé des bons et des méchants. Et puis ensuite, dans les médias, on voit une certaine représentation du monde des cartels, aussi de ce qu'est une frontière avec cette construction du mur. Et on se disait que la réalité dépasse forcément ce qu'on voit dans les médias. La représentation limite forcément un petit peu la réalité. Et donc, on s'est rendu à la frontière dans le but de vraiment étendre un petit peu notre perspective et voir un petit peu ce qui se passait dans la réalité. Et effectivement, on a vu que la réalité était tout autre que ce qu'on avait pu imaginer. Il y a des générations qui vivent en communauté, il y a une expérience très multiculturelle en fait, et tout ça devient un petit peu entaché par une certaine forme de violence et une certaine forme de vie politique qui se plaque sur tout ça.
I was just checking the program because there's this film by Les Blank that I saw, Trulas Fronteras, which is set in a similar world where these, you know, you have Mexicans who grew up on the Texas side and are singing traditional Mexican songs about that, and also talking a lot about the border experience. So I feel like that might be another inspiration. But again, when reality creeps in, it becomes a whole different story in this film. I'm curious how you, it's one thing when you go to your hometown and you film people that you know, or that everybody knows you in your hometown. But when you go to a place like that, how do you, as filmmakers, you know, immerse yourselves in that world, allow them to accept you to be there, capturing everything? Do you have a way of approaching that? Yeah.
Oui, alors c'est vrai que parler de ce film me faisait penser à un film de Les Blank. Je voulais voir s'il allait passer dans le cycle qui s'appelle Trulas Fronteras, qui parle justement de personnes mexicaines qui vivent du côté texan de la frontière. Et on voit dans le film tous les rituels autour des chansons mexicaines, mais ça parle aussi de leur expérience de la frontière aussi. Et on voit dans votre film qu'il y a vraiment le réel qui arrive d'une manière très forte et que ça change complètement le cours de l'histoire. On a vu un extrait de votre premier film où vous étiez revenu dans votre ville natale, où les gens vous identifiaient. Et là, comment est-ce que vous faites quand vous arrivez comme ça dans une ville où vous êtes inconnu? Comment est-ce que vous arrivez à vous faire accepter par la population?
Yeah, Les had actually shot in the same towns that we had been in.
Okay.
I don't think we learned that until later, but yeah, I mean, I wish we could have had a conversation about what his experience had been there. But yeah, as far as like meeting people, we're In this instance, Turner took a road trip up and down the border, starting from where and ending where?
In New Mexico through Texas.
You looked up Chad, or why don't you?
Yeah.
You were there.
I was there. Yeah, it was. Because one, we're telling visual stories, so you know, I wanted to have a good sense of what the visual landscape between the two places would be, which is why the physical scout. And when I landed in Eagle Pass, after going through quite a number of towns, I was surprised by how fluid it still was, and sort of defied the expectations that I had set. And I kind of had to wrestle with that for a moment, you know, because that challenged my perception of what it was supposed to be, which then was exciting. And it wasn't while I was there, but once I got home, I called the mayor of Eagle Pass on the American side. And Chad Foster, yeah, he took my call. I'd done some research on him. You know, he was... He had run a campaign to oppose the building of the border wall. You know, he was very outspoken, a big figure. And I told him we wanted to come down and just see what, in his words, what the reality was. And he said, come on down. So I grabbed Bill and we were there within a couple of days and started filming immediately. And then it became much like our films are, which is one handshake leads to the next handshake, which means that those share commonalities and conversations and relate to each other. And eventually built this really big web through Eagle Pass in Texas and Piedras Negras in Coahuila. And it initially had wanted to be a binary story. And I had been embedded with the mayor of the neighboring town in Mexico and was supposed to be on a flight with him to investigate flooding, massive flooding, biblical flooding that happened while we were there. But I got called away for something else and his plane crashed that day. So, you know, one, I'm glad that I wasn't there, but two, that really skewed the way that things went and, you know, became very much a story of the impact of it on this side of the border.
Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a appris plus tard que Les avait filmé en fait au même endroit que là où nous on a tourné Western, et on aurait beaucoup aimé avoir l'occasion de lui parler un petit peu de son expérience de tournage là-bas. Mais en fait, c'est vrai que donc Turner, lui, il a conduit le long de la frontière du Nouveau-Mexique jusqu'au Texas. Et donc là, Turner dit justement que vu qu'on fait des films, donc on raconte avec des images, c'était important de voir un petit peu à quoi ressemble le paysage. Donc j'ai pris ma voiture pour faire ce travail de repérage. Et en fait, quand je suis arrivé à Eagle Pass, donc la ville dans laquelle a été tourné le film, j'étais très étonné par la fluidité du passage de la frontière. C'est-à-dire que j'avais des attentes très différentes et c'était un processus très stimulant. Et en revenant chez moi, j'ai pris contact avec le maire Eagle Pass, donc côté américain, qui est Jeff Foster, que vous avez vu dans l'extrait, qui en fait est un personnage très identifié dans la région, parce qu'il est notamment, il a mené une grande campagne contre la création du mur. Et en fait, il nous a invités, il nous a dit venez voir un petit peu à quoi ressemble la réalité chez nous. Donc on est venu avec Bill, avec des caméras, et on a commencé à filmer un petit peu avec le processus habituel, c'est-à-dire qu'une rencontre mène à la suivante et le film se nourrit de ces différentes rencontres et on finit par tisser toute une toile comme ça à travers différentes localités. Il faut savoir qu'à l'origine, ce film devait raconter une histoire un petit peu bicéphale, c'est-à-dire des deux côtés de la frontière, et on s'était intéressé notamment à un maire côté mexicain. Et je devais à un certain moment faire un voyage en avion avec lui pour se rendre sur un endroit où il y avait eu des inondations, mais à une dimension carrément biblique. Et en fait, le maire a eu un accident d'avion, donc l'avion dans lequel j'étais censé être. Et donc, en fait, ça a changé un petit peu la trajectoire du film.
Now, when you go to a place and film people, you know. The fact that the camera's there and the people know the camera's there because you can't hide that, it's going to influence also how they act in front of the camera, even if they're not acting, you know, quote unquote acting. A documentary filmmaker like Frederick Wiseman, and your first film reminded me also of High School, you know, one of the great Wiseman films. He would, you know, I believe his method is he just kind of hangs around for a long time in a place until people kind of forget he's there. And, you know, they're just kind of bored with him and then they can just act normal again. I'm curious how it works with you guys and how, you know, if you've seen in your work when, for instance, in a film like Western, if, you know, do you have an impact on how people are behaving, even on what happens sometimes? Or are you just a fly on the wall that nobody pays attention to?
Oui, parce que en fait, dès le moment où vous filmez des gens, ils ont forcément conscience d'être filmés, de la présence de la caméra. Est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact sur leur comportement? C'est-à-dire que même s'ils ne jouent pas, ça me fait penser au travail de Frederick Wiseman, et notamment dans High School, qui est un de ses plus grands films. En fait, sa méthode, c'était de passer inaperçu. À force de passer tellement de temps sur place, les gens oubliaient qu'il était là et finissaient par se comporter absolument normalement. Mais vous, dans un film comme Western, justement, quel impact est-ce que votre présence avec toute une caméra et un équipement peut avoir sur l'attitude des gens que vous filmez ?
Yeah, it's a funny, I mean, it's a funny thing to do in the first place, show up with a camera and expect everyone to act naturally. But yeah, I don't know. I've like, sometimes it's the case like with Wiseman where it's, you just bore people to death and they somewhat forget about you. But yeah, again, we're just really honest with people. And it's like, here's what we're doing. Here's how long we'll be here. And we, you know, shoot them straight and we just start filming immediately. And for folks that that works with, we, you know, we go with them. And for people that act up, you know, the camera has great power. It's like if you're pointing at somebody and they're performing and then you just look away from them, they're like, oh, I guess they don't want me to do that. And we never tell people what to do. So it's just like somebody's, you know, trying to, you know, make a performance, we just look the other direction and either they get it or they don't. And yeah, I don't, I think with, in this case, it took Martine a little while to warm up, but Chad, I think, was so used to being on camera that he just, he was natural from the get-go.
Oui, c'est vrai que ça a quelque chose d'assez amusant de se pointer quelque part avec une caméra et de s'attendre à ce que tout le monde interagisse normalement. On a effectivement la méthode Wiseman qui est de tellement ennuyer les gens avec notre présence inlassable qu'ils finissent par vous oublier. Nous, on était un petit peu dans une approche différente, c'est-à-dire qu'on s'est présenté, on a dit voilà, on est en train de faire ce film, on va rester ici tant de temps, et on filme dès le départ, en fait. Et si ça marche avec nos sujets, tant mieux. Il y en a qui jouent le jeu, et puis il y en a qui, au contraire, commencent un petit peu à mettre en place une sorte de performance. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est simplement qu'on détourne la caméra, on commence à filmer ailleurs. Dès que quelqu'un commence à être trop conscient de la caméra, il y en a qui comprennent et puis d'autres qui comprennent pas, mais ça met parfois un petit peu de temps. Par contre, le sujet, donc le maire que vous avez vu ici, lui, il a vraiment l'habitude d'être filmé, donc pour lui, c'était très naturel.
So this is perfect introduction to the next clip we're going to show. This idea of performance and natural performances or people acting up in front of the camera. So this is, I wanted to show a clip from your last film to come out, which is Bloody Nose, Empty Pockets, from 2020. So maybe we'll just watch it and then we can talk about it a little after.
Oui, c'est vrai que ça nous amène à l'extrait qu'on va voir, donc qui est de votre dernier film en date, Bloody Nose, Empty Pockets, sur cette question de la performance naturelle et d'un éventuel cabotinage devant la caméra.
So, yeah, I chose that scene which happens toward the end of the film, just to describe quickly for those who haven't seen Bloody Nose, Empty Pockets. It's pretty simple story. It's the last night in a dive bar in Las Vegas, even if it was not shot there. And you have all these characters who kind of regulars at the bar coming in for this last night and celebrating it. And toward the end of the film, you have this scene, which when I saw it, I was like, this is one of the best scenes of, again, I'm going to use the word fiction a little in a way, because this is just one of the most moving, that you can't write dialogue that honest and that good and that moving. It's so hard. And yet it comes across, you know, again, like something that even somebody like Cassavetes would get out of his actors and all that. So this is goes back to performance and how you got all these people to come into this film and perform in a certain way and resulting in scenes like this, which are really moving.
Donc j'ai choisi cette scène qui se trouve plutôt vers la fin du film. Pour décrire un petit peu le film, c'est très simple. En fait, c'est la dernière nuit dans un bar à Las Vegas, même si le film n'a pas été tourné là-bas. Et donc on voit les habitués qui viennent une dernière fois dans le bar. Et en fait, vers la fin, on a donc cette scène qui est vraiment une scène exceptionnelle, qui s'apparente à de la fiction, mais en même temps, on se dit qu'on ne peut pas écrire des dialogues comme ça aussi purs et aussi émouvants, avec des performances qui sont dignes des films de Cassavetes. Comment est-ce que vous avez fait pour réunir tous ces gens dans ce film et les amener à jouer d'une certaine manière?
Well, yeah, I think it's, I mean, it's good choice there, because that it does round things out. You know, it's the container, the vessel within which people could feel comfortable enough to be themselves and interact with each other. We created a choreography that was unknown to the people, you know, stimuli and time of day and space, and so that they could just settle in and be themselves. Within that, you can write scenes like that, and we did. But if you were to put them in someone else's mouth, they would just come out as performance. So we had to deconstruct them and say, well, what is the intention and how can we set up the moment? Specifically with that moment, you have two very different instances of interacting with the people that we work with. On one hand, you have the young man there who we brought in, Pete, and just said, you're here because you're you. You're here because we love you, and we know that you can be yourself in this space. Respond to the world, trust that we believe in you, you're good. Michael is a trained actor, a local theater performer, and we did a lot of talking with him in the lead up, talking about, you know, Macbeth and talking about Eugene O'Neill and, you know, really preparing for this idea. And so when it came time to do the work, he was both the best and the worst performer that we've ever worked with, because he would perform. And it took getting through most of the entire shoot to get to a moment like this, where finally everything coalesced and everything that had gone in, you know, to the thinking and preparation of that actually emanated out of him in a moment that was very much his own. But he had to get there. And Pete was ready for that as well, because he felt embraced and safe there. But they're coming from very different directions, having a genuine moment between the two of them.
Oui, effectivement, c'est un extrait qui est bien choisi. Alors justement, on parlait un petit peu de notre méthode. Nous, on a vraiment mis en place un cadre, et ensuite nos sujets étaient à l'aise, suffisamment à l'aise en tout cas pour être eux-mêmes au sein de ce cadre. Nous, au tournage, ce qu'on fait, c'est qu'on établit un décor au sein duquel nos personnages peuvent être eux-mêmes, et si on arrive à vraiment établir ça, on peut écrire des dialogues comme ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment commencer par déconstruire la scène, se demander quelle est notre intention, et ensuite faire une sorte de mise en place pour arriver à un point culminant qui serait ce moment. Alors, il y a deux styles, en fait, d'interaction qu'on a pu avoir dans une scène comme celle-ci. D'abord, on a Pete, donc, qui est le jeune homme, et lui, on lui a dit, voilà, sois toi-même dans cette scène, on t'aime et on sait que tu es capable d'être toi-même. On avait une entière confiance en lui pour cette scène. Et de l'autre côté, on a Michael, donc, qui est le personnage plus âgé, qui, lui, est un acteur qui vient du théâtre, qui a pris des cours. Donc, lui, on a dû vraiment aller dans une discussion plus profonde en évoquant Macbeth, Eugene O'Neill, et en fait il a été à la fois le meilleur et le pire des acteurs avec qui on n'ait jamais collaboré, et ça a vraiment été un long processus tout au long du tournage pour finalement culminer à ce qu'on voit dans le film. C'est vraiment son moment, mais il a fallu qu'il y arrive, et Pete, en retour, lui, s'est vraiment senti en pleine sécurité, et il a été capable, dans cette position de confort, de donner la performance qu'il donne dans le film.
I just have one last question, and then maybe we'll see if anybody in the audience has any questions. So in the case of this Bloody Nose Empty Pockets, you have this space and you bring these people in and you have some ideas. Was there an example in this film or maybe one of your others where it didn't really go the way you thought it was going to go, and that made you rethink what you were doing, and you have to kind of say, okay, well, the film's going to be this now and the story might be this? Did, you know, when you're improvising or when people are not, when things are not scripted completely, you know, anything could happen. It's the opposite of a Hollywood film where it's ultimate control all the time. If you have an example of that.
Alors, ce sera ma dernière question avant de prendre des questions du public, de vous donner la parole. Donc, dans ce film, on voit effectivement que vous aménagez un cadre et vous amenez des gens au sein de ce cadre. Mais est-ce qu'il y a eu des cas, que ce soit dans ce film ou dans d'autres films que vous avez pu réaliser, où justement il s'est produit des choses inattendues qui vous ont amené à réadapter un petit peu le projet, à changer éventuellement l'histoire ? Parce qu'on imagine que quand on improvise, quand on travaille sans scénario, ça peut devenir assez, assez brouillon. On est vraiment dans le contraire d'un film hollywoodien qui est dans une forme de maîtrise absolue.
Yes, every day, you know, and I think that's why we've chosen to work like this. You know, we have buddies that make, films on sets with action and cut and all that, and it's just very boring to us, I think. And it stresses you out. It keeps you awake at night, but every day is different. Every day is wildly different. The case with Western, we thought we were making a very different movie, and then all of a sudden, the border shuts down, and the folks that we're following, their lives get turned upside down. Bloody Nose, Empty Pockets, Michael ran out of the bar at one point and refused to come back for a while. Every movie is a roller coaster. Laughing over there. Did you have?
We could point to 1,000 examples, but it's part of the improvisation. You know, we're all improvising because we have to respond to what's actually happening, not what we hoped would happen, and that's where the best stuff comes from. Because no matter how much we prepare, you know, no matter how well laid the plan, the best stuff that ends up in the movies is always something that happened outside of our control because of a confluence of things, because of an interruption of an intention, because someone in that moment felt something emanating from themselves that wasn't imposed upon them. And that's why we work this way. You know, that's why we work loosely and primarily with non-actors, so that every day is a discovery.
Alors oui, effectivement, tous les jours, on a des imprévus, mais c'est pour ça qu'on travaille de cette façon-là. Je trouve ça très ennuyeux, les plateaux dans lesquels on a des prises très délimitées. Alors c'est vrai que ça amène beaucoup de stress de travailler de la façon avec laquelle on travaille, beaucoup d'insomnie aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas un jour qui ressemble au précédent. Dans Western, par exemple, le fait que la frontière se soit fermée au moment où on était en train de faire le film, et ça a complètement impacté la vie des gens qu'on filmait. Évidemment, ça a eu un impact sur notre film. Dans ce film-ci, Michael, à un moment, est sorti du bar en courant, il ne voulait pas revenir sur le plateau. Donc, c'est une série de montagnes russes, en fait. Et Turner disait qu'il y a effectivement des milliers d'exemples différents, mais ça fait partie de ce qu'on doit accepter quand on travaille en improvisation. Et justement, le meilleur advient souvent en dehors du cadre qu'on essaye d'installer, en dehors de notre contrôle, quand il y a des interruptions, quand il y a des choses imprévues, en fait. Et on adore quand il y a des impulsions qui viennent des gens qu'on filme, en dehors de ce qu'on a pu leur suggérer.
So if I can't really see the theater, but merci. If anybody has any questions, people have seen the film, their films, or who haven't, you're welcome to ask them. Si vous avez des questions, si vous avez vu le film de Frère Ross ou pas, mais allez-y, n'hésitez pas.
Okay, thank you. I don't know your cinema. Actually, I have only seen the short film on Thursday before the Lightning Hopkins short film. I was struck by it. I very enjoyed it. And I thought it was sort of a pirate documentary. I try to elaborate on that. On the sense, sometimes the best documentarists, I find, they try to concentrate on the people are sort of rejected by the society. And also at the same time, I enjoyed the editing with the extract from other film, a lot of musical classics. I would like you to elaborate on this concept of pirate cinema, and also on the copyright music, if you pay the copyright as well for the movie extract as well. Thank you.
Donc vous avez vu jeudi les courts-métrages des frères Ross, c'était la première fois que vous voyez leur film, et vous avez été très impressionné par ce que vous appelleriez un documentaire pirate, c'est-à-dire des documentaires qui s'intéressent à des gens marginaux, mais c'est aussi un film dans lequel il y a beaucoup d'extraits d'autres films, d'extraits musicaux, de citations musicales, et donc vous vouliez un petit peu savoir comment est-ce qu'ils avaient pu concevoir ce cinéma pirate, et aussi en savoir un petit peu plus sur la question des droits d'auteur en fait.
I guess if we're to embrace that thought, we'll just go ahead and steal the term pirate cinema, because I like that very much. With the feature films, with the films that come out, it goes through a formal process of music clearances and all of the lawyers and all that stuff. What we showed on opening night is that's probably the one time that'll be shown. In a museum setting, but that for me is what it looks like before it looks like this. As we're making these things, there are so many references and such a stream of consciousness within and together, a conversation of, where do these ideas and impulses and inspirations come from? How do they feed into the decisions that are being made, past, present, and future, coalescing, the art and artificial life and the, the actual lived personal experience. That's what all this is. You end up with something that you can share and people can watch, but a whole lot of shit goes into it. So for me, that felt satisfying to try to peek into that a little bit.
Oui, alors justement, dans le même esprit, je vais vous voler ce terme de cinéma pirate, ça me plaît beaucoup. Quand on fait des longs-métrages, pour tout ce qui est droits musicaux, etc., on passe par des processus légaux extrêmement laborieux avec toute une équipe légale qui doit s'assurer qu'on a bien les droits. Mais ici, en fait, pour ce projet, dont ça a été d'ailleurs la première projection dans un contexte muséal jeudi, je pense que c'est vraiment le reflet de notre méthode quand on est en train d'élaborer un projet, c'est-à-dire que c'est assez proche du flux de pensée. Et chaque influence a un impact sur les décisions qu'on va prendre dans le projet qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à la fois des vies hypothétiques, des vies artificielles, mais aussi des expériences passées qu'on essaye d'inclure dans le film. Et en fin de compte, un film, c'est toujours un résultat qui est visible par un public, mais ça m'intéressait d'essayer de mettre plein de trucs ensemble et de voir un petit peu comment ça allait être perçu.
Merci. Any other questions? Harry, do you have a question? Là, au fond.
So a question for Turner. A few nights ago, Bill admitted that when he looked at the film, after not seeing it for a long time, he was surprised by his own editing. I was wondering if you had the same reaction.
C'est une question pour Turner, puisque Bill, vous avez mentionné l'autre soir que ça faisait un moment que vous n'aviez pas revu votre film. Vous étiez étonné par votre propre montage. Alors, est-ce que Turner, vous avez parfois la même réaction?
Yes and no. I have always believed in Bill, but...
No, about your stuff.
About my stuff. I've always believed in myself. I think the real answer to that is when there's enough distance, it's really surprising to be able to look back and just almost see somebody else doing the work. You're after a certain while, you are a different person with different experiences coming from a different place. And, like I watched that first film and just kind of want to say, good job, guys, like way to go. You did pretty good. Because I don't, I don't feel as connected to that space anymore. But I'm glad that artifact exists, and it really inspires me to, continue to be present and, active about pursuing these overwhelming feelings that manifest into these movies.
Alors, oui et non. Alors, je crois qu'au début, la question n'était pas très... Claire, mais j'ai cru en Bill et je continue à croire en lui comme je crois en moi. Mais Ce qui est étonnant avec la distance qu'on peut avoir quand on revoit les films, c'est qu'on a parfois l'impression que c'est un autre qui a fait ces films-là. Parce qu'on a vécu de nouvelles expériences, on est devenu une nouvelle personne, en fait. Et là, en voyant ces extraits, je me suis dit, ouais, c'est du bon boulot. Bien joué, les gars, hein, bien joué, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on n'est pas le même, j'ai pas le même lien aujourd'hui avec les gens que j'ai filmés qu'à l'époque. Et en même temps, voilà, je pense que c'est cette inspiration-là, elle continue à être très présente en moi, ce sentiment de vouloir justement avoir toutes ces expériences vécues dans un film.
Merci. A few more questions, including in the right here in the front row.
It will be you next, Dorothy. J'avais juste une. I'll do it in French, and I think it will be translated. Une remarque sur. Ben, Turner vient de dire que les films, ils expriment des sentiments. Et on a parlé, enfin, vous avez parlé du rapport entre fiction et non-fiction. Et c'est vrai que généralement, on dit la fiction, elle est du côté justement du sentiment. Le réalisateur peut vraiment réaliser ce qu'il a dans la tête à travers son scénario. Tandis que le documentaire, ce serait vraiment une confrontation aux autres, à des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans les films des frères Ross, c'est qu'on est à la fois, je pense, justement à cette frontière-là, quand on a une espèce de chose qui est... On enregistre une réalité extérieure, et en même temps, il y a quelque chose qui se retrouve d'un sentiment. Vous avez dit pour le premier et le deuxième film, vous voulez retrouver un sentiment, atteindre un sentiment que vous aviez déjà en étant enfant, pour Choupitoulas. Donc les films, ils se situent un peu dans cette espèce de frontière, quoi, je pense, entre réalité extérieure et quelque chose qui vient de vous. Et peut-être une question, quand même une question, c'était plus une remarque, mais ils sont peut-être la place de la musique dans ce chemin vers le sentiment personnel.
Yeah, certainly there is. I'm not sure where to start with that. Music plays such a huge role in all the films from the beginning of the idea. You know, when we start sharing music, like this song is evoking a feeling that I hope we're getting, that I hope we can, you know, pull out in the film, that we don't even know what the story is yet, or we don't know where the location is or the people is yet. It's like, we want, you know, so we start building these playlists of like a soundtrack to a movie that doesn't even exist yet.
And how can you find that emotion? Not how can we create that emotion, but how can we find ourselves within a situation that gives the potential for that emotion and try to collectively will it into being, you know, and sometimes we come away with a very different emotion than we thought we would, but that's always the impetus, you know, when you look at a photo and it overwhelms you with feeling, or you listen to a song and it changes the way that you feel, what images can we use, you know, what is the little window into a world that could grab the same thing?
Yeah, I think like I identify each film. Each film can be, I think, summed up with one song. Like when I think about the movies, it's they're all tied to like one song that was sort of the umbrella that the feelings of that film hopefully are evoking. I don't want to, do you? I don't know if we
probably
should give
a
that
color
away.
Too
and a color. Yeah, yeah, but. Yeah.
Oui, alors c'est vrai effectivement que la musique joue un rôle immense dans nos films et dès la conception en fait de ces films, c'est-à-dire qu'on s'échange beaucoup de morceaux et on essaye d'analyser les émotions qui sont dans ces chansons et qu'on va essayer d'injecter dans des films. Et souvent on a choisi ces morceaux avant même d'avoir le sujet ou les décors de nos films en fait. Donc on construit comme ça des playlists qui sont un petit peu comme les bandes-sons de films qui n'existent pas. Et en fait, ces morceaux, ils nous aident à trouver les situations à partir desquelles on va travailler. Donc ça donne lieu à une recherche des émotions. Et parfois, les situations qu'on trouve pour refléter certaines émotions qu'on a vécues musicalement sont très différentes de ce qu'on aurait pu anticiper. Et on a un petit peu la même sensation parfois, vous savez, quand vous êtes envahi par des émotions en regardant des photos, et ensuite quand vous écoutez de la musique par-dessus, ça va changer un petit peu, ça va déplacer cette émotion. Et donc pour nous, les scènes dans les films, c'est un petit peu comme des fenêtres sur le monde à travers lesquelles on essaie comme ça d'avoir ce même rapport à l'émotion. Et chaque film, chacun de nos films, on pourrait vraiment le résumer avec un morceau et une couleur, c'est-à-dire que tout dans nos films est lié à un morceau et les émotions naissent découlent de ce morceau-là.
Donc oui, dernière question, last question. Save the best for last.
A little bit earlier, some people asked about how you said that you were surprised about your editing earlier on in your films. And I guess my question is, if you went back in time and were able to think of the ideas again and redo it, do you think you would edit it the same way and make the same films?
Incredible question.
Thanks, Dee.
Alors, Pluton vous a demandé justement si vous étiez étonné en revoyant vos propres films, quel rapport vous aviez avec le montage. Et donc, la question, c'était si vous pouviez voyager dans le temps et revenir au moment où vous étiez en train de monter ces films, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous reprendriez le montage tel qu'il existe?
So, I think about this a lot. And the answer is no. I think that the person that made that particular film in that particular time made that movie, and I would make different choices now, and thank God I can't go back and do it, because I would overthink myself now would overthink 4-5-3-6-5, and I think it would be something very different. Sometimes I wish that I could take that sort of naive person and bring them into the present day and let them edit or shoot. But never, I would never want to go back.
And I think that's also part of why we make these movies, is because the person who made those movies no longer exists. That was a fleeting moment in time with its own particular emotions and experiences. And if we're truly present with those things, then only in that moment can we be present with those things. And so as we move into the future, you know, we have to leave that one behind. I think you can only do it once. You can't unlearn what you learn.
Oui, alors c'est vrai que je pense beaucoup à cette question, et je pense qu'en fait non, parce que la personne qui a fait ce montage à un instant T, elle a pris les décisions qu'elle a prises pour une certaine raison, et aujourd'hui je pense que les choix que je pourrais faire seraient très très différents, et Dieu merci d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je pense que j'aurais une approche beaucoup plus cérébrale à mon propre cinéma, et parfois au contraire j'aimerais ramener un petit peu la naïveté de la personne que j'ai pu être avant dans les films, et malheureusement c'est quelque chose que je retrouverai peut-être jamais. Et donc ensuite Turner a dit que c'est pour ça en fait qu'on fait les films qu'on fait, et que ces films existent, c'est-à-dire pour raconter qui on est à un instant T, avec les émotions qu'on a pu ressentir dans le moment présent à une certaine époque. Et je pense que c'est très difficile en fait d'imaginer ce qui aurait pu être. Au contraire, je pense qu'il faut laisser devenir ce qui a pu exister à un moment donné.
I think that's a perfect... wait, is there another question?
On m'a permis de poser une dernière question.
Oh, ok, là.
je voulais poser la question de... Est-ce que il y aurait quelque chose comme un programme plus ou moins conscient dans leur filmographie en cours qui serait de parcourir ou de voir de revivre un certain nombre de mythologies américaines, des mythologies... géographique et cinématographique, la petite ville américaine et la jeunesse, la descente du Mississippi tout à l'heure avec River, la frontière, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins conscient chez vous?
Hmm. Asking about American mythology and if we consciously imbue the work that we do with elements of American mythology. And absolutely, yeah. I mean, we may be Americans, but we are also susceptible to our own mythology. You know, we read Huck Finn and Tom Sawyer growing up. Our dad took us to an old movie theater where they played old westerns. You know, we were aware of the rivers running through the spaces that we grew up in, and the sort of like the ghosts that existed in New Orleans. And it's from that place that a lot of this emerges, whether it's celebrating those things, acknowledging that the reality is very different, trying to discover the origin of that mythos, or using it as a tool to play with our interpretation of the realities of the present. But it's very, very much a part of all the beginning conversations of what we do.
Alors oui, absolument, on a conscience de cette mythologie-là. On a grandi en lisant les romans de Mark Twain. Notre père nous a emmenés voir des vieux westerns quand on était enfant. On est très conscient de beaucoup de choses qui font partie de notre identité. La rivière qui coule dans notre région natale, les fantômes qu'on peut croiser ici et là à la Nouvelle-Orléans. Alors effectivement, notre cinéma vient de là. Et je pense qu'il faut... Dans notre travail, une grande part de notre travail, c'est de reconnaître justement la différence qui existe entre la réalité et les mythes, s'interroger aussi sur l'origine de ces mythes, jouer avec l'interprétation qu'on peut avoir de ces mythes. Et donc je pense qu'effectivement, c'est le point de départ de notre cinéma.
Merci beaucoup. Merci à vous, Bill Turner. Jordan et aussi au traducteur Émile Bertera, merci beaucoup pour votre travail. Thank
merci
you
beaucoup.
So much for all of you.
Merci beaucoup.
On n'a pas encore terminé. C'est tout à l'heure, à 19h, vous avez l'honneur, grâce aux frères Ross, de découvrir River, leur home movie épique, et où les quatre personnages du film, donc non seulement les deux frères, mais le troisième frère Al et leur ami Kyle seront présents. Demain, on va projeter Western. Lundi, Bloody Nose, Empty Pockets. Et on se termine mercredi avec Chupitolas. Pour une raison très simple, c'est que le film fait référence à un film de Les Blank, Always for Pleasure, qu'on va projeter jeudi, et toujours en présence des frères Ross. Merci et j'espère à tout à l'heure. Merci.